Bonjour à tous, ce n'est pas Théophane Kinda, c'est Mathias Schulman. Merci de votre fidélité, merci aux auditeurs de Radio Capi et bienvenue dans cette nouvelle conférence de presse des Nations Unies en République démocratique du Congo. Avec nous depuis Goma, le porte-parole militaire de la mission, le lieutenant-colonel Claude Raoul Djiongo, et à mes côtés ici à Kinshasa, le responsable du programme d'urgence en RDC de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Gervais Folefak. D'abord des nouvelles de la représentante spéciale, Leila Zerougui, a quitté Kinshasa hier pour Washington afin de participer au Forum sur la fragilité 2020, un événement de haut niveau organisé par la Banque mondiale. Ce forum réunit des participants des gouvernements, des institutions internationales, des donateurs, du secteur privé, de la société civile, des universités et des médias pour améliorer l'efficacité des approches de développement dans des contextes de fragilité, de conflit et de violence. Il s'agit de la troisième édition de ce forum et la représentante spéciale interviendra dans plusieurs sessions pour poursuivre son travail de plaidoyer pour l'appui aux initiatives de stabilisation et de renforcement des fonctions régaliennes de l'État, police, armée, justice, notamment dans les zones post-conflit en RDC. Elle plaidera pour un soutien renforcé aux initiatives de développement et de désenclavement en ligne avec sa récente visite à Kananga et Chikapa. À Washington, Mme Zerougui rencontrera aussi des représentants du gouvernement américain avant de se rendre au siège des Nations Unies à New York pour des rencontres politiques et techniques avec les partenaires de la République démocratique du Congo, y compris des membres du Conseil de sécurité. Enfin, après cette visite, la représentante spéciale ira à Berlin rejoindre d'autres hauts responsables du maintien de la paix pour la réunion sur l'action pour le maintien de la paix ou Action for Peacekeeping, une initiative qui invite les États membres, le Conseil de sécurité, les pays hôtes, comme la RDC, les pays qui fournissent des contingents ou du personnel de police, les partenaires régionaux et les contributeurs financiers à renouveler leur engagement collectif en faveur des activités du maintien de la paix menées par l'ONU. Elle rencontrera aussi des membres du gouvernement allemand. En Ituri, la MONUSCO a effectué une mission de sensibilisation des populations du territoire d'Irumu avec son partenaire UNADI, Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, afin d'inviter les populations à ne pas céder aux rumeurs et à coopérer avec les forces de sécurité. Il s'est également agi pendant ces trois jours de mission de redynamiser les comités locaux de protection et les cellules d'alerte communautaire, deux outils mis en place par la MONUSCO dans le cadre de la protection des civils. La section de désarmement et de démobilisation de la MONUSCO à Bunia a également soutenu une campagne par laquelle les leaders communautaires ont engagé les miliciens Maïmaï à déposer les armes. Cette campagne se déroule depuis mardi 18 février à Biakato et sa périphérie dans le territoire de Mambasa. Enfin, des représentants des communautés Alour et Lendu se sont engagés à lutter ensemble contre l'insécurité dans les territoires de Mahagi et de Djougou en Ituri, à l'issue d'une série de dialogues intracommunautaires qui se sont tenus à Mahagi Centre, Kambala et Kpandroma, à l'initiative du gouvernement provincial et avec la facilitation de la MONUSCO. À Goma, une mission conjointe des sections justice et administration pénitentiaire de la MONUSCO ainsi que du bureau conjoint aux droits de l'homme est actuellement dans le territoire de Rutshuru afin d'examiner les conditions carcérales des détenus et de s'informer directement de l'état des procédures des prévenus au cas par cas. Cette mission est accompagnée de deux membres du comité de suivi des lieux de détention comprenant un magistrat civil et un magistrat militaire. Et le vendredi 21 février, une trentaine de journalistes de Beni a été formée sur la déontologie et l'éthique du journaliste, mais aussi sur la protection individuelle. La formation était une des recommandations des journalistes à l'issue d'une rencontre avec la MONUSCO mi-décembre, après les menaces qui les avaient visées, eux et leurs médias, fin novembre et début décembre 2019, dans la couverture des manifestations à Beni et Butembo. La formation était assurée par nos collègues de l'information et des droits de l'homme. Je passe tout de suite la parole à mon collègue militaire, le lieutenant colonel Claude Raoul Djiongo. C'est à vous, à Goma.
Capi, bonjour. Le lieutenant général Costa Neves, commandant la force de la MONUSCO, poursuit sa visite opérationnelle dans la zone de déploiement de la force. Après avoir revisité Beni le 9 et 10 février, il s'est rendu dans le sud Kivu du 14 au 15 février 2020. Les 17 et 19 février furent l'étape du nord Kivu, les 21 et 22 février l'étape de l'Ituri et enfin les 24 et 25 février le Kasaï. À chacune des étapes, le commandant de la force de la MONUSCO a reçu une présentation complète sur la situation sécuritaire. Les échanges avec les autres composantes de la mission, composantes civiles et composantes policières, lui ont permis de comprendre et de mieux cerner la dynamique du théâtre des opérations. Le général Costa Neves a en outre eu de franches discussions avec les responsables des forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, avec qui il a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts pour mettre fin aux souffrances imposées aux populations civiles par les divers groupes armés et leurs complices. Les principales informations sur la situation sécuritaire par région se présentent comme suit. Dans la province de l'Ituri, la situation est caractérisée par les affrontements entre les éléments incontrôlés des assaillants de Djougou, des dissidents du FRPI et le tout nouveau groupe FPIC, dont le créateur et chef a été arrêté le 12 février dernier. Toutefois, l'annonce de la probable signature de l'accord de paix entre le gouvernement et le FRPI dans les jours à venir constitue une lueur d'espoir. Dans le territoire de Béni, une nouvelle base de déploiement est en passe d'être implantée à Mamové afin d'endiguer les récurrentes attaques perpétrées par les ADF et leurs complices. Les démarches sont en cours pour l'installation d'une autre base dans la localité de Madoumbi. Les patrouilles conjointes avec les FRDC se poursuivent pour assurer une meilleure protection aux civils. Dans le reste de la province du Nord Kivu, des patrouilles de dissuasion ont été effectuées dans le but de prévenir les enlèvements et autres menaces qui pèsent sur les personnes déplacées internes dans le territoire du Massissi. D'autres patrouilles de longue portée ont été effectuées de Osso à Sake, de Lufo à Kabanyonga et de Mbegu à Lubero pour protéger les populations victimes collatérales des multiples affrontements entre divers groupes armés. Dans la province du Sud Kivu, la situation des personnes déplacées internes demeure préoccupante, notamment dans le camp de Mikenge, où elles font l'objet de menaces permanentes de la part des groupes armés Maïmaï. Aussi, la force a-t-elle eu recours aux patrouilles héliportées, soit pour effectuer des reconnaissances, soit pour dissuader les groupes armés, ou encore mieux, évaluer la situation humanitaire. Sur le plan des activités civilo-militaires, la force de la MONUSCO, à travers la compagnie indonésienne du génie, faisant partie de la brigade d'intervention de la force, a entrepris la réhabilitation de la route Kasinga-Kididiwe. En effet, la zone de Kasinga-Mayangose-Kididiwe est une zone opérationnelle où se poursuivent actuellement les opérations de traque contre les ADF. La réhabilitation de cette route permettra non seulement de faciliter des mouvements des troupes, à savoir les troupes des FADC et de la MONUSCO, mais aussi d'offrir l'opportunité aux populations civiles d'accéder plus facilement à leurs champs et de reprendre une vie normale. Enfin, il convient de mentionner la reddition de 101 éléments appartenant à divers groupes armés au cours de ce mois de février, portant à 732 le nombre total de redditions depuis le début de l'année 2020. Je vous remercie.
Merci beaucoup, lieutenant-colonel. Quelques nouvelles rapides des agences fonds et programmes des Nations Unies. Des rapatriés congolais continuent de quitter le site de réfugiés de Lovua, en Angola, dans le cadre d'un programme de rapatriement librement consenti vers la région du Kasaï, organisé par le HCR, l'Agence des Nations Unies, pour les réfugiés. Plus de 17 000 retournés ont reçu une allocation monétaire ainsi qu'une aide humanitaire en collaboration avec les autorités provinciales et les partenaires sur le terrain. Le HCR continue d'appuyer les efforts déployés par le gouvernement de la RDC pour fournir et rétablir les services essentiels tels que les écoles et les centres de santé, ainsi que pour promouvoir la cohésion sociale et les efforts pour la réintégration durable des retournés. Un soutien financier est nécessaire de la part de la communauté internationale, des organisations humanitaires et du gouvernement afin de créer des conditions durables pour les rapatriés. Le HCR se réjouit en outre de la formation samedi 22 février d'un gouvernement d'unité attendu de longue date au Soudan du Sud qui suscite un espoir pour les près de 89 000 réfugiés sud-soudanais se trouvant actuellement en RDC. Ces réfugiés se trouvent dans les provinces du Haut-Wélé et de l'Ituri et font à ce jour face à des besoins énormes. Des moyens supplémentaires, là aussi, sont nécessaires pour assurer une réponse à leurs besoins de base et, le cas échéant, leur rapatriement volontaire. Je voulais également vous signaler que l'équipe pays des Nations Unies, c'est-à-dire les agences, fonds et programmes et la MONUSCO, tiennent depuis hier un atelier consacré à l'élaboration des plans de travail conjoints 2020-2021 en collaboration avec le ministère du Plan et le ministère de la Coopération internationale. Cet atelier vise à aligner les activités des Nations Unies sur les priorités nationales. Et puis, à noter également dans vos agendas, le vendredi 28 février, le gouvernement congolais et la communauté humanitaire vont lancer le plan de réponse humanitaire 2020 pour la RDC. Ce lancement aura lieu à l'immeuble du gouvernement. Et demain aura lieu le lancement du rapport global des résultats de l'enquête à indicateurs multiples de l'UNICEF, MIX. Le représentant de l'UNICEF en RDC, Edouard Bagbédé, vous les avez présentés ici même il y a 2 semaines. Comme vous le savez maintenant, c'est les résultats de ces enquêtes mixtes sont abondamment utilisés comme base de décision pour l'élaboration des politiques et des programmes d'intervention dans le but de sensibiliser l'opinion publique à la situation des enfants et des femmes dans le monde. Je vais maintenant donner la parole à notre invité, le docteur Gervais Follefac, qui va vous parler du coronavirus, du Covid-19. Docteur Follefac.
Ok, merci. Une alerte avait été lancée le 31 décembre 2019 dans un hôpital de Wuhan en Chine au sujet des cas de pneumonie causés par un virus jamais connu auparavant. Actuellement, on a dénommé ce virus, cette maladie, le Covid-19, maladie à coronavirus 2019. Dans sa forme compliquée, ce virus est à l'origine d'un syndrome respiratoire aigu, sévère, qui peut occasionner des décès. Alors, le virus est transmis à l'homme d'une personne à une autre par des gouttelettes respiratoires lorsque la personne malade tousse, éternue ou bien parle à proximité d'une autre personne saine. Nous sommes encouragés actuellement par la baisse des cas depuis quelques jours au niveau de la Chine, mais cependant, la propagation de la maladie dans d'autres pays du monde est inquiétante. Sinon, la situation épidémiologique à ce jour, à la date du 24 février, se résume ainsi. Ça, c'est les données de l'OMS. On a 79 331 cas confirmés, avec 2618 décès dans le monde. Mais la grande partie de ces cas se retrouve en Chine, avec 77 262 cas et 2595 décès. En Afrique, on a eu 2 cas confirmés déjà. Il y a eu un premier cas en Égypte et puis on a eu un 2e cas en Algérie. En RDC, heureusement, on n'a pas encore eu des cas confirmés. On a eu quelques alertes qui se sont tous révélées négatives après examen de laboratoire. Comme vous le savez, l'Organisation mondiale de la santé appelle les pays à investir dans la préparation, y compris la surveillance active, la détection précoce, surtout au niveau des points d'entrée, aéroports et ports internationaux, l'isolement et la prise en charge des cas suspects, la recherche des contacts et la prévention de la propagation de l'infection à coronavirus. Nous recommandons aussi de mieux communiquer les risques de transmission aux populations et à partager avec l'OMS les données sur la maladie. Concernant la RDC, il y a des actions de préparation qui sont en cours par le gouvernement, l'OMS et les autres partenaires. Il s'agit en particulier, donc on a mis sur pied comme pour tous les autres épidémies, on a mis sur pied un comité de coordination. La réunion de coordination se tient au ministère de la Santé tous les mardis. Le ministre a désigné une équipe qui coordonne la réponse, enfin la préparation et une éventuelle réponse à cette épidémie. Donc, il y a des différentes commissions qui sont mises en place. Il y a des commissions pour la prise en charge, des commissions pour la surveillance, des commissions pour le laboratoire, les commissions pour la logistique et la commission pour la communication. Donc, toutes ces commissions sont en train de travailler pour pouvoir préparer le pays à faire face à une éventuelle épidémie de maladie à coronavirus. On a élaboré un plan de préparation, c'est-à-dire le gouvernement avec l'appui des partenaires. On a élaboré un plan de préparation de 12 mois. Ce plan va être diffusé par le ministère de la Santé, je crois, dans les prochains jours. Nous avons tenu avec le ministère de la Santé un exercice de simulation à l'aéroport international de Kinkole, que cet exercice permettait de savoir si les équipes sont mieux préparées pour pouvoir détecter un cas au niveau de l'aéroport, l'isoler et le conduire au niveau du centre de traitement de Kinkole, où on a préparé de pouvoir prendre en charge des éventuels cas. Donc cet exercice avait pour but de former aussi le personnel et puis de pouvoir voir le niveau de préparation à ce niveau-là, au niveau du point d'entrée et du centre de prise en charge. Au niveau du ministère, il y a un bulletin de situation épidémique, de situation de préparation qui est publié chaque jour. Donc je crois que ce bulletin est partagé à tous les partenaires. Nous avons également renforcé les capacités de diagnostic au niveau du laboratoire de référence, qui est l'Institut national de recherche biomédicale. Il y a un médecin biologiste de l'INFB qui a été envoyé à Dakar pour une formation de quelques jours, et qui est revenu et qui a déjà commencé à faire les tests sur place. L'OMS et CDC, USCDC, ils ont envoyé suffisamment de réactifs qui sont disponibles et qui permettent de faire ces tests. Il y a également des travaux de réhabilitation qui sont en cours au centre de traitement de Kinkole. Vous savez qu'il y a un centre de traitement qui avait été construit là-bas pour Ebola. Alors nous avons pensé qu'il était nécessaire de réhabiliter ce centre de traitement pour pouvoir l'adapter à la prise en charge des cas de coronavirus. Donc il y a des travaux qui sont en cours. Je crois que ça va finir d'ici la fin de la semaine prochaine. Et ce centre sera également prêt pour pouvoir prendre en charge les éventuels cas de coronavirus. Donc ça, c'est quelques activités qui sont en cours au niveau du pays. Sinon, je voulais peut-être insister sur les messages de prévention, puisque nous parlons au grand public. Ce qu'il faut faire, c'est se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon, ou désinfecter les mains régulièrement avec des solutions hydroalcooliques. Se couvrir le nez et la bouche lorsqu'on touche ou on éternue. On peut se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir. On peut, si on n'a pas de mouchoir, on peut utiliser le pli du coude pour se couvrir la bouche lorsqu'on éternue. OK. Concernant après avoir éternué, il faut, même si vous avez utilisé le mouchoir, il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Ou bien utiliser une solution hydroalcoolique pour désinfecter les mains. Vous savez aussi que la maladie, comme je l'ai dit tantôt, la maladie se transmet par contact direct. Donc, je crois qu'il faut se tenir, c'est aussi conseillé, se tenir à distance. On donne une distance d'au moins un mètre entre les personnes lorsque vous toussez. Donc, vous reculez, vous vous tenez à distance et vous toussez. Et si vous voyez quelqu'un qui tousse, mettez-vous à distance de cette personne pour éviter d'être contaminé. Vous savez, cette maladie a été transmise de l'homme à l'animal. Donc, on conseille aussi aux gens de lorsqu'ils ont manipulé les animaux, de pouvoir laver les mains et d'éviter même d'abord de manipuler les animaux. Et lorsqu'on veut manger de la viande, il faut la cuire avant de manger. Voilà un peu quelques conseils que nous pouvons donner au public. L'Organisation mondiale de la santé travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, auprès des différents gouvernements, pour pouvoir arrêter la propagation, contrôler cette épidémie. Nous travaillons également avec les réseaux scientifiques et des cliniciens pour pouvoir mieux comprendre la maladie, parce que vous savez, il y a encore des choses qui ne sont pas très bien maîtrisées, c'est une nouvelle maladie. Donc il y a des aspects tels que le développement des vaccins. Donc on travaille avec des experts pour développer les vaccins, on travaille avec des experts pour pouvoir développer des traitements efficaces contre ces maladies. Donc nous travaillons également avec des experts pour d'autres travaux de recherche. Donc c'est ce que je pouvais dire concernant la maladie à coronavirus.
Merci beaucoup, docteur.